Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Les déplacements dans la grande région de Montréal posent des problèmes depuis des années. Mais quand une autoroute importante, mettons, est dans une situation d'endommagement grave 4 mois après que les travaux ont été réalisés, et qu'en plus de ça, vous avez un réseau de transport en commun qui cumule retard après retard après retard, qui cumule plus de maux de tête que de clients satisfaits, là, bien là, je pense qu'on a un problème. Et puis, on a le ministre des Transports, André Fortin, qui est au bout du fil, ministre des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Monsieur Fortin, bonjour.
Bonjour, Monsieur Drainville.
On va les prendre un par un. Là, on va commencer par les trains de banlieue.
Oui.
Vous êtes impatient. Là, 10 retards par jour, parce que c'est ça qu'on vit actuellement avec les trains de banlieue dans la région de Montréal, en particulier la ligne de Deux-Montagnes, ça n'a pas de maudit bon sens. Là, vous trouvez que ça va faire, puis vous voulez des solutions, là.
Oui, puis je vous ai entendu dire d'entrée de jeu là, que assez c'est assez, ben c'est pas mal le sentiment là, qui m'habite ces jours-ci. Bien honnêtement, quand on lit des histoires comme celle qu'on a vues dans la presse hier, je suis certain que vous en avez parlé pendant votre émission hier également, que les passagers qui attendent au grand froid pendant des dizaines de minutes parce que le train est en retard, c'est loin d'être ce qu'on veut pour notre système de transport en commun, puis des systèmes où on entasse le monde pour compenser parce qu'il y a des retards dans les trains précédents, c'est loin d'être acceptable au Québec en 2018. Alors, il faut que le réseau de transport métropolitain fasse mieux. C'est bien beau dire qu'on veut que les gens prennent le transport en commun, on veut que les gens acceptent d'essayer peut-être, dans certains cas, un nouveau système de transport en commun, mais encore faut-il le rendre confortable, le rendre fiable, le rendre sécurisant pour tous ces gens-là. Donc, j'ai demandé hier au président de l'ARTM, M. Chedler, qu'on ait un plan correctif avec des mesures à court, moyen et long terme. À court terme, parce qu'il y a des gens, là, probablement certains de vos auditeurs en ce moment, qui, ce soir, vont embarquer dans un train de banlieue et s'attendent d'arriver chez eux à une heure bien précise. Puis ça prend des solutions à long terme parce qu'il faut s'assurer que les solutions, c'est pas simplement, comme on dit, là, du patchage, mais qu'améliore réellement la fiabilité des systèmes de train de banlieue.
Alors, le plan correctif que vous demandez, là, concrètement, ça veut dire quoi, ça?
Bien, ça veut dire que d'ici 2 semaines, pas d'ici 2 mois, pas d'ici 6 mois, j'exige qu'on nous arrive avec des mesures précises. Peut-être qu'il y en a certaines que, entre autres des mesures à court terme, que le RTM est capable de financer à travers ses enveloppes actuelles. Peut-être que pour des mesures à plus long terme, ils pourront nous arriver avec des suggestions qui vont demander à ce qu'on engendre des frais de la part du gouvernement du Québec. C'est correct. Nous, ce qu'on va faire de notre côté, c'est une fois qu'on aura des solutions devant nous, on s'engage à les analyser de façon très rapide pour que le RTM ait tous les outils entre les mains pour améliorer le service qui, en ce moment, est loin d'être optimal.
Avez-vous un début d'explication quand même? Là, si je regarde 2017, il y a eu 1868 retards. OK? Là, juste pour les 6 premières semaines de 2018, on est rendu à au-dessus de 900 retards. Donc, c'est à peu près la moitié de tous les retards qu'on a eu dans l'ensemble de l'année 2017. Fait qu'en 6 semaines, on a quasiment autant de retard que 6 mois dans une année comme celle de l'année passée. Puis certains de ces retards-là, vous avez parlé de 10 minutes, monsieur le ministre, oui. Là, mais il y a des retards, là, c'est absolument. Une demi-heure oui, de retard. Le monde, à un moment donné, là, ils vont s'écœurer puis ils vont retourner dans leur bagnole. C'est pas ça qu'on veut.
Bien, tout à fait. C'est exactement ça qu'il faut éviter. Puis, justement, il n'y en a pas en ce moment de bonnes raisons. J'ai entendu le RTM, entre autres, parler de la météo, des conditions hivernales difficiles. Mais je leur rappelle, on est au Québec et tous les hivers sont difficiles au Québec. Donc, il y a réellement besoin, là. Et c'est pour ça que je vais avoir un plan à très, très, très court terme en 2 semaines pour nous dire c'est quoi le problème et c'est quoi la solution à chacun de ces enjeux-là qui a pu causer des retards. Je pense que, comme vous le dites, effectivement, là, on se doit de faire mieux pour les citoyens qui dépendent du train de banlieue parce qu'il y a des gens que c'est leur moyen de transport. Il y a des gens qui ont acheté des maisons, qui ont fait le plus gros investissement de leur vie tout près d'une gare de train de banlieue en se disant, ben c'est le fun, je vais être au bureau à l'heure, ça va être fiable, ça va être... Donc, pour ces gens-là, il faut trouver une solution parce que ce soir, ils ont besoin d'arriver à 17 heures à la maison pour faire à souper au petit, pour le ramasser au service de garde, pour y faire à souper, puis après ça, l'amener au hockey après. Donc, pour tous ces gens-là, il faut trouver des solutions. C'est pour ça qu'on veut des solutions très rapidement qui nous sont présentées. Puis s'ils nous disent c'est quoi le problème, on pourra se pencher sur ces solutions-là.
Est-ce que c'est possible qu'il y ait un problème de gestion?
C'est possible, mais bien honnêtement, moi, ce que je veux qu'ils fassent en ce moment, c'est, outre les enjeux de gestion, c'est qu'ils pensent aux citoyens puis qu'ils nous disent comment on peut améliorer leur situation à très court terme. Donc, peut-être qu'il y a un enjeu de gestion qu'il faudra regarder à long terme, là, mais là, en ce moment, le RTM a 2 semaines pour trouver des solutions pour les usagers.
C'est parce que je les sens pas bien ben proches, moi, des usagers, monsieur le ministre. Pour ça, je vous pose la question là, de la gestion, là. Tu sais, par exemple, à Toronto, ils en ont eu des problèmes, OK? Toronto, ils en ont eu des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit aux utilisateurs, quand vous avez un problème, quand il y a un problème de retard, vous allez être compensé. On va vous donner un crédit, on va vous donner un remboursement, quand il y a une défaillance du service. Bon, mais la question, elle a été posée, là, aux responsables de la RTM ou du RTM, là, parce que là, c'est deux patentes, là, qui... avant, il y avait l'Agence métropolitaine de transport. Là, ça a été remplacé par deux patentes à gosse. On ne sait pas trop, d'ailleurs, laquelle est responsable de quoi. Mais en tout cas, bref, ni du côté de la RTM, ni du côté du RTM, là, il y a quelqu'un qui est arrivé pour dire, ben savez-vous quoi, c'est notre faute. La température, c'est pas une bonne excuse. Puis quand ça va arriver dorénavant, ben les usagers... on va les compenser. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça?
Oui, je comprends ce que vous dites. Puis c'est pas juste à Toronto qu'on fait ça. Je pense que Laval, entre autres, a un système pour rembourser les clients qui n'ont pas un service satisfaisant. Donc, ça se fait ici au Québec également. Mais je vous avoue, peut-être que c'est une des choses que la RTM doit regarder à l'interne. Mais à très court terme, d'après moi, et peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais d'après moi, l'enjeu de la fiabilité du réseau, c'est vraiment ce sur quoi ils doivent se pencher. Donc, ils peuvent regarder des façons de s'assurer d'un meilleur service. Peut-être que effectivement, si le RTM a une obligation financière envers ses utilisateurs, quand le service n'est pas adéquat, peut-être qu'ils vont travailler davantage sur une fiabilité du service. Mais en ce moment, moi, je veux travailler sur la fiabilité à court terme du service pour que l'utilisateur, lui, sache exactement que son train va être à l'heure demain matin.
Non, vous avez raison, M. Fortin. Vous avez absolument raison. La ponctualité, là, on dirait une valeur, là, c'est une valeur qui s'est comme perdue dans le temps, là. Mais la ponctualité, là, il est temps qu'elle redevienne à la mode, y compris pour les trains. Bon. Cela étant dit, alors, faut travailler sur, effectivement, sur la fiabilité du réseau. Mais en même temps, quand tu as des retards, vous savez, dans certains cas, les gens, t'es obligé, si tu as des retards dans certains cas, tu es obligé de prendre un autre mode de transport parce qu'à un moment donné, tu te tannes. Tu peux encourir des dépenses supplémentaires. Si tu arrives plus tard à la garderie, tu vas payer des frais. Alors, c'est pour ça que je pense que la question financière, elle est importante. Et par ailleurs, moi, je vous entends là, dire, s'il y a des solutions à nous proposer qui impliquent des dépenses, on va les regarder rapidement parce que ce qui nous importe, c'est le service. J'espère juste, M. le ministre, que c'est pas encore le bon contribuable qui nous écoute qui va être obligé de payer plus, là.
Non, je comprends bien votre point, mais peut-être qu'il y a des améliorations qui sont arrivées, ou il y a des mécanismes ou des équipements qui sont arrivés à terme pour lesquels on a besoin d'un investissement. Peut-être qu'on s'était dit dans les plans, et là je spécule, mais peut-être que dans les plans du RTM, on s'était dit ben on les remplacera dans 2 ans, ces équipements-là, mais s'ils sont défaillants tout de suite et que le gouvernement aura engrangé des sommes quand même, peut-être que c'est des choses qu'il faut regarder puis y répondre un petit peu plus rapidement que ce qui était prévu. Ce qu'on pourra faire avec vous, M. Drainville, c'est dans 2 semaines, quand le plan sera déposé, on pourra certainement en discuter à nouveau pour voir exactement ce que ça voudra dire pour l'utilisateur et pour le contribuable.
En tout cas, vous vous étirez le coup. Moi, j'apprécie ça, là, parce que politiquement, vous prenez un risque. C'est-à-dire que là, vous dites aux gestionnaires, revenez-moi avec des solutions. Si dans 2 semaines, ils ne vous reviennent pas avec des solutions ou ils ne reviennent pas avec des solutions qui sont acceptables à vos yeux, là, vous allez devoir poser des gestes, mon cher Monsieur le ministre, là.
Oui, absolument. Mais j'ai senti hier dans ma conversation avec M. Chedler qu'il comprenait très bien les enjeux. J'ai confiance qu'on va nous revenir avec un plan dans 2 semaines.
Puis dans ce plan-là,
on verra quand il sera entre nos mains.
Puis dans ce plan-là, là, vous allez vous leur demander, là, c'est ce que j'ai compris, vous leur demander d'évaluer la question de la compensation. Vous voulez que ça fasse partie du plan, ça?
Non, pas nécessairement dans le plan à court terme. Le plan qui doit nous être présenté, c'est vraiment un plan pour améliorer le service.
Mais la question de la compensation,
c'est ce qu'on leur a demandé.
Ouais.
Mais en même temps, ça ne les empêche pas de regarder à l'interne. Et ça, c'est une décision qui leur appartient. Mais ça ne leur empêche pas de regarder la question de la compensation également. Mais ça, c'est vraiment une politique interne de chaque société de transport.
OK. L'autoroute 19.
Oui.
Ah, monsieur le ministre, là, les travaux, ils ont été faits par Roxborough. Ils ont été faits, du mois d'août au mois d'octobre dernier, sur la 19. Grosso modo, là, c'est entre Henri Bourassa puis la 440. Donc, c'est 3 kilomètres qui nous ont coûté au-dessus de 3 millions. Ils ont gagné l'appel d'offres. Et là, il y a des témoignages, notamment rapportés par Radio-Canada, là, des gens qui circulent sur la 19, en particulier la voie de gauche, qui est carrément dangereuse. Tu prends voie de gauche, que ce soit vers le nord ou vers le sud, là, puis c'est tout tremble dans l'auto, ça cogne. Il y a un moment donné, autour du pont Papineau-Leblanc, il manque des galettes d'asphalte. Tu dis, voyons donc, Christophe Colomb, pourquoi est-ce qu'on est si mauvais, M. Fortin? Pourquoi on est si mauvais quand arrive le temps d'asphalter? Il me semble que on a-tu déjà été bon là-dedans?
Ouais, je comprends ce que vous dites, puis je les ai vus moi-même les vidéos de la part des utilisateurs de l'autoroute 19. Effectivement, pour le tronçon en question, ça a l'air, disons, plutôt rocambolesque comme balade automobile, et c'est pour ça qu'il y a eu des pénalités qui ont été mises de l'avant pour l'entrepreneur en question, et que l'entrepreneur devra, évidemment on aimerait ça faire ça en hiver, mais c'est pas nécessairement possible au Québec, devra dès le printemps apporter des correctifs nécessaires pour améliorer la surface, pour améliorer le confort de roulement.
Fait qu'on va encore faire chier l'automobiliste, parce que évidemment il va falloir fermer les voies pendant la durée des travaux.
Oui, je vous entends. Puis en réponse à votre première question, par exemple, on parle d'un projet précis en ce moment. Donc, il y en a des projets au Québec pour lesquels il n'y a pas d'enjeu par rapport à la surface qui sont faits très bien et qui sont faits de façon très convenable. Mais on a un enjeu précis sur le cas de l'autoroute 19. Donc, oui, effectivement, il va y avoir des travaux qui vont être faits, puis ça va avoir un impact sur la circulation automobile dans le secteur. Je m'en cache pas. Mais en même temps, on peut pas laisser la surface dans la condition où elle est. Donc, on devra, dès le printemps, apporter les correctifs nécessaires et c'est l'entrepreneur en question qui va être obligé de le faire.
Pourquoi on continue à faire affaire avec Roxborough? On a eu du trouble avec eux autres, là. Ils ont été condamnés devant le bureau de la concurrence à un moment donné pour collusion, partage de marché. Il y a eu le problème avec le déneigement, là, le fameux cafouillage sur la 13. C'était Roxborough qui devait déneiger. Puis là, Tu sais, tu dis à un moment donné, il n'y a pas moyen de dire, écoutez, là, non, nous autres, là, on ne fait plus affaire avec vous autres. Là, on est tanné de vous donner des millions, puis la job est mal faite, puis finalement, c'est l'automobiliste puis le contribuable qui se retrouve à être pénalisé pour ça. Ça se fait pas, ça?
Ouais, il y a un système, effectivement, au ministère des Transports où un entrepreneur peut se retrouver sur, disons, une liste noire là, après un certain nombre de manquements de par ses différents projets. À ce moment-là, l'entrepreneur en question n'était pas dans cette situation. Donc, pouvait continuer d'appliquer sur les appels d'offres du ministère. Et vous le savez comme moi, quand on applique sur un appel d'offres et qu'on est le plus bas soumissionnaire, on va avoir le contrat du ministère des Transports.
Seriez-vous ouvert à changer ça? Tiens, vous m'ouvrez la porte. Seriez-vous ouvert à changer ça? Parce qu'il y a des pays, comme vous le savez, ils ont décidé de changer le système plutôt que d'avoir le plus bas soumissionnaire. Alors, ça dépend des pays, mais il y en a qui enlèvent. Alors, ils vont en soumission ouverte. Il enlève celui qui a soumissionné le plus fort, puis il enlève celui qui a soumissionné le plus faible. Ils prennent, dans certains cas, celui du milieu. Ils font une moyenne de ceux qui restent, et puis ils prennent celui qui est le plus proche. Tu sais, il y a d'autres façons de faire que seulement appliquer la règle du plus bas soumissionnaire. Puis vous, à titre de ministre des Transports, vous pourriez dire, savez-vous quoi, M. Drainville? On va la regarder, cette règle-là, parce que visiblement, très souvent, elle nous sert très mal.
Oui, ben vous avez raison, il y a différentes façons de faire dans différents pays. La règle du plus bas soumissionnaire, c'est celle qu'on a ici en ce moment, mais si jamais elle serait si jamais il y aurait un gouvernement qui envisagerait de la changer, il faut faire attention à ce qu'on ne se retrouve pas dans une situation où on paye plus. Parce que si on paye plus pour les contrats pour l'entretien de telle ou telle route, ben ça veut dire qu'on ne pourra pas en faire un autre plus loin qui, elle, a besoin d'être entretenu tout autant. Donc, mais là où je pense qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant qui peut être regardé. c'est justement par rapport au nombre d'incidents avant qu'on se retrouve sur, par exemple, une liste d'entrepreneurs qui ne sont pas utilisés par le ministère. Donc, peut-être qu'il y a des critères à ce niveau-là qui peuvent être resserrés pour s'assurer qu'on a des entrepreneurs qu'on sait qui vont faire un bon travail sur nos routes et nos autoroutes. Mais en même temps, je pense que la règle du plus bas soumissionnaire a certains avantages comme celui-là, c'est-à-dire qu'on peut faire plus de travaux.
Oui, mais là, si on fait plus de travaux, mais on se retrouve avec la chenoute, on n'est pas bien plus avancé. Mais je veux juste finir avec vous une dernière question, là, parce que vous avez autre chose à faire. Pensez-vous qu'on va être capable un jour de voir une machinerie dérouler de l'asphalte sur nos routes puis se dire « ça va être du bel ouvrage, ça va durer ». Parce que là, je vais ouvrir les lignes, là, puis je vais demander aux gens, justement, de m'appeler puis de me dire, en avez-vous des exemples concrets à nous donner là, de belles routes qui ont été faites, là, mettons des routes que vous utilisez ou des routes pas loin de chez vous, puis vous avez vu des travaux il y a une couple d'années de ça, puis ça dure encore, puis ça a été bien fait. Je peux pas croire, là, il doit en avoir au Québec de ça, là, parce que, évidemment, on a peut-être tendance à voir à voir ce qui va pas bien, là, puis à voir les trous, puis à voir les jobs mal faits. Mais franchement, monsieur Fortin, je ne trouve pas bon là-dedans. Puis moi, j'étais jeune journaliste à la fin des années 80, début 90. Il y avait une espèce de projet pilote du ministère des Transports, justement, là, sur la construction puis les nouvelles méthodes pour s'assurer que nos routes durent plus longtemps. On ne sait pas ce qui est arrivé de cette affaire-là. Mais y a-tu moyen d'avoir un peu espoir sur des nouvelles méthodes, sur peut-être des nouvelles façons de choisir les entrepreneurs qui vont faire en sorte que les gens qui nous écoutent vont se dire, ben au moins, on paye, mais on paye pour quelque chose qui va durer.
Ben, je vous avoue que j'ai hâte d'entendre une partie de votre ligne ouverte un peu plus tard pour savoir ce que les gens pensent. Mais c'est sûr qu'au Québec, il y a des routes qui se font bien, qui durent plusieurs années, qui durent le nombre d'années qu'on veut qu'ils durent quand ces contrats-là sont donnés. Il y a aussi des enjeux qui sont plus problématiques, comme celui de l'autoroute 19 dont on parle aujourd'hui. Mais en même temps, le ministère continue de regarder toutes sortes d'alternatives.
Il y a
des routes qui sont faites en asphalte, il y a des routes qui sont faites avec toutes sortes de matériaux en ce moment, mais il faut continuer de regarder c'est quoi les meilleures façons de faire, puis c'est quoi et qu'est-ce qui se fait ailleurs également dans des climats comme le nôtre qui nous permettrait d'améliorer la qualité de nos routes, disons.
J'ai un chiffre sous les yeux, là. Il y a seulement 3% des routes du Québec qui sont en béton. Bon. Ça fait des années qu'on dit qu'on devrait avoir plus de béton. C'est sûr que pour le roulement, c'est peut-être un peu plus dur, mais peut-être qu'il faut investir davantage sur le béton. Évidemment, le béton, c'est plus cher, hein?
Oui, c'est ça. Le béton, effectivement, ça peut être une avenue de solution. Encore faut-il avoir les sommes nécessaires pour être capable d'aller dans cette avenue-là. Mais ça peut être une des pistes de solution qui peut être praticable sur certaines routes, peut-être pas sur l'ensemble des routes. Donc, il faut que ça fasse partie des solutions qu'on envisage de façon générale. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut continuer les travaux à ce niveau-là pour trouver les meilleurs matériaux et la meilleure façon de les déployer possible.
Fait que vous allez vous en occuper?
On va travailler là-dessus, puis j'ai hâte d'entendre vos auditeurs.
OK. André Fortin, ministre des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports et de l'asphalte et du béton et des nids de poules. Alouette, merci pour l'entrevue.
Toujours un plaisir, M. Drainville. Bonne journée.
Bonne journée. Drainville à commercial 985FM.ca, 514-790-9850 ou encore par texto 98985. En avez-vous des exemples concrets? T'sais, mettons-nous en mode un peu constructif, là, pas juste chialer, mais s'il y en a des beaux exemples, peut-être certains d'entre vous avez travaillé dans cette industrie-là, puis vous avez des exemples à nous donner là, de travaux qui ont été bien faits puis qui ont duré, appelez-nous après la pause.